Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'être venus malgré la veille des fêtes. Nous nous interrompons naturellement 3 semaines pendant les vacances. Alors voilà, nous avons donc, dans un premier examen du IHT 13, pu déterminer que la structure de la partie hymnique, donc de la première moitié de ce IHT 13, constituait un récit cosmogonique en très grande partie, avec naturellement un certain bourrage interstitiel. Mais il y a épars dans cette première partie hymnique 3 récits cosmogoniques, 3 récits cosmogoniques qui s'emboîtent très bien, comme nous allons le voir. Le premier, très long, dont nous avons fait la description la semaine dernière, explique, selon quelle procédure s'est faite la mise en place des mécanismes du monde matériel, mais des mécanismes qui sont provisoirement immobiles. Et comme nous l'avons vu, les fravachis elles-mêmes sont introduites à titre de sorte de cariatide dans ce monde matériel, elles qui sont pourtant immatérielles. Alors, nous allons en venir au deuxième récit cosmogonique qui constitue très clairement la suite de ce premier mouvement. Il est beaucoup plus court, car il ne procède pas par la juxtaposition de 3 passages rhétoriques différents, mais qui racontent la même chose. C'est un récit tout à fait dépouillé, qui tient en 6 strophes. Ce sont les strophes 53 à 58 du IHT 13. Ce second récit cosmogonique raconte le démarrage des mécanismes qui ont été mis en place au début du IHT, en faisant d'ailleurs référence, l'articulation est parfaite, puisqu'il y a référence au moment où les choses étaient immobiles. Alors, je vais vous lire aussi, n'est-ce pas, ces strophes. Donc, les fravachis, nous sacrifions, etc., c'est un vrai yacht, hein, ici, c'est une formule en yazamaïdé, et l'action cosmogonique des fravachis apparaît dans la proposition relative. Donc, je fais l'économie de cela, je traduis comme s'il n'y avait pas de relative, je traduis simplement les phrases les propositions cosmogoniques. Donc, les fravachis montrent de beaux chemins aux eaux instaurées par Mazda, qui, auparavant, alors qu'elles avaient été instaurées, demeurer depuis longtemps au même endroit sans prendre leur cours. Les fravachis, et voient, ah non, excusez-moi, alors après longtemps immobile, alors le contraste est établi avec ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. Voici qu'à présent, elles coulent sur le chemin instauré par Mazda, au lieu qui leur a été désigné, à la saison déterminée comme celle des pluies, pour obtenir l'approbation d'Awa Mazda, l'approbation des Amushaspenta. Deuxième mécanisme qui se met en place, les fravachis montrent de beaux modes de croissance aux plantes bonnes à cueillir qui, auparavant, alors qu'elles avaient été instaurées par Mazda, demeuraient depuis longtemps au même endroit sans se mettre à croître. Alors maintenant, voici qu'à présent, elles croissent sur le chemin instauré par Mazda au lieu qui leur a été assigné à la saison déterminée pour obtenir l'approbation d'Ahura Mazda, l'approbation des Amushaspenta. Troisième mécanisme, les fravachis ont montré des chemins conformes à l'agencement aux étoiles, à la lune, au soleil et aux lumières infinies, qui auparavant demeuraient depuis longtemps au même endroit sans se mettre en mouvement. Et voici qu'à présent, ils volent, ces astres, hein, sur le chemin au tournant lointain, désireux d'atteindre ce tournant qui est le bon renouveau. On a ici un mot technique, je dois le signaler parce qu'il est important, c'est le fracho-curti, ce qui signifie littéralement rendre les choses séveuses, juteuses. Le fait de rendre les choses fracho-curti. La fracho-curti est dans le contexte qui est le nôtre ici, il semble bien que il faut comprendre l'expression comme simplement le retour de la belle saison, hein, le retour de la belle saison quand les astres ont accompli un parcours annuel. Bien, alors, il y a quelques petits commentaires à faire. Donc, vous voyez l'articulation, on signale que les choses sont restées longtemps immobiles et on met cette immobilité en contraste avec le mouvement d'aujourd'hui. Et cela signifie qu'à un certain moment, les Favachis ont déclenché trois grands cycles naturels, le cycle des eaux, le cycle de la végétation et celui des différents corps célestes. Conformément donc au plan d'Ahuamazda, elles montrent aux eaux leur lit qui est appelé dans le texte leur chemin, hein, panta, panta, leur chemin, leur bassin, riauna, c'est-à-dire leur emplacement. Elles dotent les eaux de leur débit saisonnier et elles mettent le flot en mouvement. Donc c'est un acte qui ébranle ce qui ne se mouvait pas auparavant. Il y a la contraste entre auparavant et maintenant, c'est para armat, auparavant, l'immobilité auparavant et maintenant, nourum. Maintenant, les eaux coulent, les plantes poussent et les astres accomplissent leur révolution. Alors ici, il y a un petit détail intéressant, je n'ai pas tout traduit. Il y a une expression qui n'a pas été, dont on n'a pas relevé jusqu'à une certaine époque l'importance. C'est lorsqu'il s'agit des astres qui sont restés longtemps immobiles, nous dit-on, et le texte ajoute une notation. C'est ceci. C'est une répétition avec deux termes, mais je vous donne le dernier membre, parce que c'est une répétition purement synonymique. Daiwanam, le génitif pluriel du nom des démons, les devas. Daiwanam, paro, draumohu. Draumohu, c'est un locatif pluriel. Un locatif pluriel qui est régi par une préposition. C'est une construction donc parfaitement légitime. Et le mot que nous avons ici, le thème, c'est drauman, c'est-à-dire l'acte d'agressivité, l'agression. Alors, dans le dictionnaire de Bartholomé, paro, la préposition est relevée avec le locatif, et Bartholomé comprend que la valeur est causale, à cause d'eux, ce qui est effectivement une possibilité. Dès lors, on va traduire, elles sont restées longtemps immobiles à cause de l'hostilité, à cause de l'agression des démons. Oui, mais ce n'est pas la seule possibilité. Paro, plus le locatif ou l'ablatif, d'ailleurs, sont interchangeables dans sa réction syntaxique, cela peut signifier avant. Alors, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, donc, les astres étaient restés longtemps au même endroit, sans se mouvoir, avant l'agression des démons. Ça fait un sens curieux, mais cela se comprend parfaitement dans le cadre de la cosmogonie usuelle du mazdéisme, puisque Drauman, c'est probablement l'agression, l'assaut. Cela correspond très exactement à ce que les théologiens mazdéens de l'époque moyen-perse appelleront Ebgat. Ebgat, c'est un synonyme. En iranien ancien, ce serait Abigati, le fait d'aller de front contre quelque chose, donc l'attaque. Ebgat, l'assaut. C'est l'événement qui a mis en branle, justement, le monde matériel. C'est l'agression du mauvais esprit contre la création d'Ahuramazda. Cet Ebgat des théologiens mazdéens n'avait pas été reconnu dans l'Avesta jusqu'en 2001. C'est en 2001 que ce passage brutalement m'a sauté aux yeux. Il m'a sauté aux yeux que ce passage pouvait être compris de cette manière. Et d'ailleurs, le troisième passage cosmogonique dont nous allons parler immédiatement nous raconte comment les choses se sont passées. Il y a donc dans l'Avesta une allusion, une dans le Yasht 13, à l'événement qui met en branle le monde immobile, c'est-à-dire l'agression du mal. Alors, maintenant, je vais même reprendre les choses pour faire un tableau de cette cosmogonie, des livres Pelvi, afin de situer les éléments du H de 13 à l'intérieur de ce schéma. La doctrine de l'histoire du monde, selon les livres Pelvi, nous l'appelons la doctrine des millénaires, parce que les livres Pelvi nous exposent que le monde est censé durer durant 12 000 ans, donc quatre périodes de 3 000 ans. Et cette doctrine des millénaires est exposée dans cinq extraits des livres Pelvi, des livres moyens perses. D'abord, le premier texte, pour l'exhaustivité, je vous les donne, c'est le commentaire d'un passage des Gathas qui est fait dans le livre 9 du Denkart. Nous trouvons une glose dans la traduction Pelvi d'un passage du Videvdat Avestique, c'est le Videvdat 2.19. C'est un texte important parce que nous devrons le commenter, Videvdat 2.19. Donc c'est une glose, hein. ce n'est pas dans la traduction que l'allusion est faite à cela. Enfin, deux chapitres du Bundahish, hein, le grand livre cosmogonique Pelvi, et le chapitre 1 de Zatzpram. Cela fait cinq témoignages au sujet de la doctrine des millénaires. Alors, la doctrine des millénaires se représente l'histoire du monde de la manière suivante. Durant 3000 ans, première période, premier trimillénium, premier trimillénium, le monde existe à l'état immatériel, ce qui dans les livres avestiques s'appellera Mainyava, dans les livres Pelvi, Menok, c'est la forme Menok. Le monde matériel survient plus tard, pendant 3000 ans à nouveau, donc l'an 3000, l'an 6000, le monde, pendant 3000 ans, le monde matériel est mis en place mais reste immobile. Hein, c'est ce que nous raconte la première cosmogonie du H de 13, la mise en place de ce monde matériel immobile. L'assaut a lieu en l'an 6000 du monde. Hein, l'assaut des forces du mal met le monde en mouvement. Durant 3000 ans, à nouveau, les hommes subsistent avec beaucoup de difficultés, toutes sortes de difficultés dont nous avons déjà parlé au cours lorsque nous avons examiné d'autres yachts cosmogoniques, hein, le grand hiver de Yima, etc. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire. Or, en l'an 9000, Zarathustra apparaît dans le monde pour lui apporter la Daina. Donc, la doctrine religieuse correcte, la manière sacrificielle correcte qui permettra aux hommes d'obtenir l'immortalité dans le paradis d'Ahura Mazda. Ce qui est très obscur dans nos textes, d'ailleurs je vous le signale, mais ça fait partie de cette zone doctrinale où peut-être il y avait quelques variations. C'est qu'il n'est pas très clair, on ne peut pas savoir très clairement ce qu'il en était de l'âme des défunts qui sont morts entre l'an 6000 et l'an 9000, avant la Daina. Nous avons des indices divers à ce sujet-là. Hein. Soit les grands héros mythiques ils ne meurent pas en réalité, ou pas tout à fait, ou pas vraiment. Ou bien ils s'endorment jusqu'à la fin des temps, ou ils disparaissent du monde. Ils disparaissent dans la montagne, on ne les revoit pas. Donc il y a un problème probablement doctrinal sur la question de savoir ce qu'il en était de la mort avant la Daina. Alors, dernière période de 3000 ans, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'un fils lointainement posthume de Zarathustra apporte au monde, balaye du regard les forces du mal, arrête le temps, balaye le mal de l'univers et ressuscite les corps. C'est le temps de la résurrection, ce qui s'appelle dans les livres Pelvi le Ristaakez. Alors voilà, nous avons. Bon, je vous ai Je vous ai donné les mots Pelvi parce que jusqu'à il y a très peu de temps, n'est-ce pas, il était réputé que l'Avestique ne donnait aucun témoignage sur la doctrine des millénaires. Je fais tout de suite une réserve. Ce qui fait défaut, ce qui fait vraiment défaut, c'est le chiffrage. C'est le chiffrage. Mais l'Avesta raconte une histoire du monde qui se partage bien en quatre étapes. En quatre étapes, comme dans la doctrine des millénaires. Alors, bon, qu'en est-il du chiffrage ? Nous avons tout de même un petit témoignage. C'est juste, c'est la glose. C'est la glose du Videvda 2.19. Le glosateur Pelvi introduit ici une phrase avestique. C'est une citation d'un texte que nous n'avons pas, mais qui donne au temps de Yima, c'est-à-dire, grosso modo, pour faire bref, le premier homme, le temps de Yima, le temps où Yima a su assurer l'immortalité des êtres vivants, a duré, nous dit-il, 1000 ans. 1000 ans. Ce n'est pas suffisant, c'est un témoignage insuffisant, mais ça montre tout de même que dès à l'époque où l'on rédigeait encore des textes en avestique, n'est-ce pas, il y avait une tendance à chiffrer par millénaires, par chiffres ronds, certains événements de l'histoire du monde. C'est tout de même un indice léger que le chiffrage des quatre étapes de l'histoire du monde peut être relativement ancien. Alors, où en sommes-nous à présent ? Pouvons mettre ici les différentes étapes, les retrouver dans le texte avestique. C'est ce que nous allons faire. Ristakes, la résurrection des corps. Nous n'avons pas le mot correspondant. Il n'y a pas un mot qui nous dit, bon, il y aura résurrection. Mais on nous dit ça sous forme syntaxique, développée. Le Yash de 19... qui est calqué, lui, sur une histoire du monde, comme celle-ci, mais pas vue du point de vue des Tefravashi, vue d'un autre point de vue, c'est la possession du Kwarna, se termine sur l'intervention de ce fils posthume de Zarathoustra, son regard qui balaye l'esprit mauvais de la création, et nous dit le texte, les morts, Irista, ce sont les morts, Paiti, ou ce Hishtan, les morts se redresseront, les morts se relèveront. Bon, c'est l'expression syntaxiquement développée du Ristakes des textes moyens perses. C'est une chose que nous connaissons depuis une vingtaine d'années. À vrai dire, c'est Helmut Hinze qui a tiré l'attention la première sur ce témoignage à propos de la doctrine de la fin des temps dans les livres avestiques, dans son édition du Yash de 19, qui est paru, je crois, en 92. Bon, alors, naturellement, la Daïna, nous savons, hein, c'est l'épisode central, c'est l'épisode auquel, finalement, l'Avesta tout entier est consacré. Hein. Les Bgats n'avions pas de témoignage. Alors, maintenant, nous pouvons y mettre peut-être le synonyme avestique, Drauman, l'assaut, l'attaque. C'est à ce moment-ci qu'il survient. Alors, l'époque du monte Mainyava, sur lequel aussi porte témoignage la glose du Videvda 2.19, nous en avons lu le récit dans la première partie cosmogonique du Yash de 13. C'est un témoignage intéressant parce que on a souvent mis en doute que la doctrine des millénaires originale ait comporté quatre périodes. On faisait la supposition que soit l'état immatériel du monde, soit l'état matériel immobile était une spéculation tardive, une fioriture, parce qu'il paraissait plus conforme à l'arithmétique mythologique que les choses durent 3 fois 3 000 ans. 3 fois 3, c'est plus joli du point de vue de ce qu'on peut appeler l'arithmétique mythologique. Mais non, vous voyez, le plus ancien témoignage avestique nous donne bien quatre étapes. Il y a une période du monde immatériel, il y a une période du monde matériel immobile. Il n'est pas chiffré, hein. Le texte avestique, je vous l'ai lu, ce qu'il dit simplement, le texte du Yash de 13, c'est pendant longtemps. C'est sa manière de nous dire que les choses ont duré. Nous ne savons pas combien de temps. Alors, l'assaut met les choses en mouvement. Comment s'est passé l'assaut ? Eh bien, cela, c'est C'est le sujet du troisième récit cosmogonique que nous trouvons dans le Yasht 13. Et il fait partie du long quart final, du long quart final de la partie hymnique, qui occupe les strophes 64 à 81. C'est un quart un peu désordonné. Je préfère vous en faire la description parce que c'est un peu curieux. Le récit, il est parfaitement logique, hein, il est bien agencé, mais le quart est assez bizarre. D'abord, seule la première strophe, 64, est une strophe qui répond au genre yasna. Hein, c'est la seule strophe en yasamaïdé que nous rencontrons. Dès la strophe 65, on en revient à un texte adressé par Ahura Mazda à Zarathoustra. Le vocatif du nom de Zarathoustra est introduit, et l'action que Ahura Mazda, en s'adressant à Zarathoustra, entreprend, il l'a défini à nouveau comme une description, c'est « framrou ». Et puis, il y a des strophes de 65 à 68, cela concerne la fonction des Fravashi vis-à-vis du mécanisme de la production de la pluie. Les strophes 69 à 73 sont des strophes de coloration martiale. Et puis, prenons le tournant vers la fin de la partie hymnique. Les strophes 74 à 79, ce sont les dernières, constituent en grande partie des formules incantatoires. Des formules incantatoires, nous avons vu l'équivalent dans le Homestome, dans le texte adressé à Hauma. Il s'agit d'appliquer un yasamaïdé non pas à la divinité, mais à des mots du texte qui lui est consacré. Alors, certains mots, probablement jugés importants par les commentateurs mazdéens, n'est-ce pas, deviennent eux-mêmes l'objet d'une formule sacrificielle. Hein, nous sacrifions au mot un tel, par exemple, au mot soura, hein, au soura, lorsqu'il est appliqué au fravashi. Et c'est à l'intérieur de cette partie que trois strophes, 76-77, nous racontent comment s'est passée l'attaque de l'esprit mauvais, d'un Gramainyu, contre l'univers qui commençait à prendre son mouvement agencé. Hein. Alors, les Fravashi, nous disent-ils, se sont tenus verticales, je traduis littéralement, se sont tenus verticales, c'est un mot qu'il faudra commenter. Elles se sont tenues verticales tout le temps que les deux Manyu, le bienfaisant et le mauvais, ont procédé à l'instauration de leurs instaurations respectives. Si bien que, lorsque le mauvais Manyu a voulu entraver l'apparition, il faudra commenter aussi le mot qui est ici, l'apparition de l'agencement, du hurta, de hacha, la bonne pensée et le feu se sont interposés. Et eux deux ont surmonté les nocivités du mauvais Manyu trompeur, si bien qu'il n'a pas pu arrêter les eaux dans leur flot, ni les plantes dans leur croissance, et que Ahura Mazda, qui les avait instaurées, a donné à ses filles, les eaux, le pouvoir de couler toujours plus grosses, et de même à ses filles, les plantes, le pouvoir de pousser toujours plus hautes. Bien. Alors, maintenant, il y a quelques mots à commenter. D'abord, ceux qui suivent mes cours depuis un certain temps savent que je répugne souvent à parler de création à propos du mazdéisme avestique. Si vous avez entendu les conférences d'Albert de Jong il y a quelques mois, c'était au mois de mai cette année, vous savez en quoi consiste exactement la petite polémique que j'avais eue avec lui à ce sujet. De Jong est partiellement du moins un théologien. Alors, il sait parfaitement que le mot création ne signifie pas nécessairement fabriquer quelque chose à partir de rien du tout. Hein. Une mise en ordre du monde peut être définie en théologie comme une création. Bien. Seulement, on ne peut pas parler pour cela de création ex nihilo, la création à partir de rien. C'est une toute autre notion. Et De Jong sait parfaitement aussi que cette création ex nihilo est une création chrétienne. C'est un concept chrétien du IIe siècle de notre ère. Donc, c'est quelque chose qui est totalement anachronique pour le mazdéisme. Mais si vous lisez certains livres généraux sur le mazdéisme, vous verrez qu'il arrive, il arrivait souvent que la création ex nihilo soit prêtée à la doctrine avestique. C'est évidemment un anachronisme aujourd'hui. Dès lors, je préfère éviter le mot créer. Je préfère éviter. Et j'ai parlé d'instauration, vous avez vu ? Oui. Alors, moi, je veux bien, dans certains textes, je veux bien traduire créer parce que le texte nous dit très clairement ce qu'il entend par là. Pour l'auteur de ces passages cosmogoniques que nous avons ici, en quoi consiste la création ? La création du monde matériel, elle est très claire. C'est une fabrication, une taille de menuiserie. Hein. Le monde est façonné, il est taillé. Ça, c'est le monde matériel. Mais qu'en est-il des créations immatérielles ? Qu'en est-il ? Quel est le procès qui fait que quelque chose d'immatériel apparaît ? Eh bien, il y a aussi un mot, il y a un mot précis. Nous l'avons rencontré pour la première fois l'an dernier, en lisant le commentaire de certains passages vieil avestiques. C'est le mot da'ahi. Da'ahi. C'est celui qui est utilisé ici. Da'ahi. L'introduction de l'agencement dans le monde, dans le mouvement des plantes, des eaux, des corps célestes, c'est da'ahi. C'est pas le verbe da que l'on traduit d'ordinaire, par créer. C'est un autre mot qui n'a rien à voir avec le verbe da. C'est l'équivalent d'un mot qui existe en sanskrit védique et qui est dasi, dasi. Or, il semble que ce soit un vieux mot indo-européen que l'on retrouve en latin. On peut faire la... restitution suivante. Et ce mot donne en latin la concordance phonétique est parfaite. Fons, fontis. La source. C'est le jaillissement de l'eau d'une source. Dahi. C'est le mot qui est utilisé pour la création immatérielle. Nous avons donc tous nos apaisements. Hein. Nos textes nous disent très clairement quels sont les procès créateurs qui sont en œuvre dans la cosmogonie avestique. La création immatérielle est un jaillissement, hein, comme celle d'une source, hein, comme le jaillissement d'une source. Le monde matériel, c'est la taille de menuiserie, tâche, ou tac, ou toirse, tâche. Donc, nos actes créateurs sont parfaitement définis. Bon, ça, c'est le premier commentaire. Il faut commenter aussi autre chose. Elles sont restées verticales. Ce mot est en sanskrit, urdhvahasta. Urdhva, l'adjectif signifiant vertical. Urdhva. Sta, se tenir vertical. Oui, vous voyez qu'on peut faire plusieurs interprétations de la position debout verticale. Elle rappelle naturellement la position que les Fravashis occupaient dans le monde matériel immobile auparavant. Hein, elle servait d'été, elle servait de colonne, elle se tenait immobile. L'image persiste d'une certaine façon. Mais Urdhvasta, la station verticale, c'est aussi la posture idéale du sacrifiant. C'est le sacrifiant se tient vertical, comme disent les textes des Brahmanas, ou beaucoup moins les textes avestiques. Urdhva vertical n'est pas attesté de nombreuses reprises dans les textes avestiques. Pas comme il faut se représenter les choses, que cette verticalité est requise comme posture sacrificielle. Il n'y a rien de plus étranger au rituel indo-iranien, qu'il soit védique ou mazdéen, que l'idée de se prosterner, de s'agenouiller, de faire une courbette, c'est proscrit. C'est proscrit parce que par la verticalité, on affiche la nature humaine. Hein. C'est une des particularités de la nature humaine, de cette bizarre créature humaine qui est la seule avec les dieux à posséder la pensée, que de se tenir debout, n'est-ce pas ? Droit, d'avoir des épaules aussi, c'est important. Pas les épaules sont une caractéristique humaine répertoriée dans les textes indo-iraniens. Il est donc extrêmement probable que cette immobilité, cette verticalité des Fravashis dans le troisième mouvement cosmogonique de leur hymne, c'est leur posture de caryatide qui est invoquée, mais qui se mue aussi intérieurement en posture du sacrifiant, la posture du sacrifiant. Or, ce ne sont pas elles, immobiles et verticales, qui contre l'attaque du mauvais Manu. Hein. C'est la bonne pensée et le feu. Ce sont évidemment les deux émanations par excellence du sacrifice. La bonne pensée du sacrifiant qui est en train d'officier et aussi le feu du sacrifice qui intervient dans ce récit de l'événement déclencheur de la marche du monde, du démarrage du monde. Or, on retrouve un écho de cela dans l'Aitareya Brahmana du Védique, n'est-ce pas, où la cosmogonie védique est naturellement tout à fait différente de la cosmogonie masléenne. Nous n'avons pas cette succession de millénaires. C'est un récit beaucoup plus clair. Nous savons que dans la cosmogonie védique, l'acte essentiel, c'est le meurtre du dragon Vrtra qui enfermait les eaux et la lumière par le dieu Indra. Donc, comme le dit l'Aitareya Brahmana, Indro Vrtra Mahan, donc Indra a tué Vrtra et il l'a fait aussi avec un agent grâce à Agni et à Soma. Ce sont donc les deux divinités sacrificielles, c'est pas le feu, le dieu sacrifiant par excellence, et aussi la liqueur sacrificielle Soma. Ce sont les deux ingrédients du rituel, de la liturgie aussi, qui participent ici à l'acte cosmogonique essentiel du dieu Indra. Donc je laisse ici pendant un certain temps le témoignage du Yashta 13, car notre ligne du temps masdéen qui figure devant vous au tableau, nous avons identifié les événements fondateurs des trois derniers trimillénaires, mais qu'en est-il du monde immatériel ? Qu'en est-il du monde immatériel ? Eh bien, ceux d'entre vous qui ont assisté aux conférences de l'an dernier le savent, n'est-ce pas ? L'Avestan porte témoignage aussi, porte témoignage de la constitution du monde immatériel. Je vais en faire le résumé, même si vous et ceux qui sont là et qui s'en souviendraient très bien me pardonneront, mais il est intéressant de voir que nous avons effectivement ici aussi un témoignage avestique sur la formation du premier trimillénaire. Ce texte se trouve dans les préliminaires du grand sacrifice, dans les textes qui précèdent l'Avesta ancien, dans le cœur du Yasna. C'est le sujet du chapitre 19, 20 et 21 du Yasna, qui porte le titre en moyen perse de Bagan Yasht, et qui consiste en un commentaire avestique récent des trois strophes liminaires de l'Avesta ancien. Les prières que l'on appelle Ahunavairia, Hashem Vohu et Yenke Hatan. Ce sont trois strophes, dont une seule d'ailleurs est vieille avestique, la première, l'Ahunavairia, qui servent d'introduction à l'Avesta ancien. Ils sont catalogués par les rédacteurs de l'Avesta récent comme des textes de vieille avestique, ce qu'ils ne sont pas, il n'y en a qu'un seul qui l'est exactement, mais ils sont censés former l'introduction de l'Avesta ancien. Eh bien, ces chapitres nous disent pourquoi. Ils nous disent pourquoi la Ahunavairia est la première formule, la Shemvohu la seconde, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui est raconté ? Car je vous fais grâce naturellement de certains détails de spéculation qui n'ont rien à voir avec la cosmogonie, mais du point de vue de récit cosmogonique, voici comment les choses se passent. Ahura Mazda a déclenché tout le processus de création en récitant l'Ahunavairia. L'Ahunavairia, c'est l'outil même de la cosmogonie. Sa récitation à l'aube des temps a tout mis en mouvement, a tout développé. Alors, premier mouvement par l'Ahunavairia, l'Ahunavairia voit apparaître les premières créations, les premières dahi, les premiers jaillissements. Et ces deux premières créations sont la bonne pensée, la pensée et le pouvoir. C'est-à-dire deux des six Amushaspenta, Vohumana pour la pensée et pour le pouvoir, Kshatra. L'image du jaillissement qui est propre à Dahi est répétée et commenté aussi par un autre verbe censé définir cette création immatérielle, c'est le verbe fra, préverbe, et le verbe même est dakh. C'est un verbe extrêmement concret. Ça signifie manier une fronde, lancer quelque chose avec une fronde. Donc c'est une propulsion, un jaillissement, une propulsion. Bon, alors le résultat de cette récitation et de cette propulsion de deux choses immatérielles, la pensée et le pouvoir, la pensée permet au Dieu de prendre conscience de l'ordre du monde, de l'ordre Asha, l'autre entité immatérielle. Prend conscience de l'ordre et d'exercer son pouvoir, Kshatra, conformément à l'ordre. Mais en même temps, la pensée lui fait aussi prendre conscience qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense lui aussi, et qui est conforme à l'ordre, et qui est aussi Ashavan, n'est-ce pas ? Et cet autre, provisoirement, il n'est pas nommé, mais le récit ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit de Zarathoustra, parce qu'il va intervenir dans la suite directe de l'histoire, et puis aussi parce que le texte a précisé préalablement que cette récitation primordiale des trois formules sacrées s'est faite pour Zarathoustra, s'est faite en sa présence, de façon très claire. Donc, et cette personne, bien sûr, est censée, un moment ou l'autre de l'histoire de 12 000 ans qui va suivre, descendre dans le monde matériel. Bon, la récitation de la Shemvohu ce programme est achevé, mais la troisième formule, le Yenke Hatan, n'est pas prononcée par Ahura Mazda. Elle est prononcée par Zarathoustra. Donc, la création prend ici des aspects de dialogue. Hein. La récitation créatrice de la Vesta ancienne, qui nous est présentée dans ces chapitres, apparaît comme un dialogue entre Ahura Mazda et Zarathoustra. Et le commentateur définit très bien en quoi consiste cette intervention de Zarathoustra, puisque le Yesne Hatam est un texte de Zarathoustra, nous dit-il, et ce texte est Yesnia. Hein, Yesnia. Donc c'est le texte que Zarathoustra prononce au sujet du sacrifice. Le Yenke Hatam est compris par le commentaire, très simplement, comme une promesse sacrificielle. Zarathoustra, en fait, promet de sacrifier à Ahura Mazda. Bien sûr, donc, ce texte, oui, nous devons le prendre pour ce qu'il est, et nous devons tirer la conclusion donc que l'homme existe dès l'état immatériel du monde. L'homme existe. Sous quelle forme ? D'abord, il y a une logique. Bien sûr, il y a une logique. Hein. Dans la mesure où la pensée est une émanation du monde immatériel, l'homme étant fait partiellement de pensée, il doit appartenir d'une certaine manière à la création immatérielle. Maintenant, la question sous quelle forme ? Bien, il n'y en a qu'une possible et imaginable, c'est l'afravashi. C'est l'afravashi. Mais le mot n'est pas prononcé. Le mot n'est pas prononcé. C'est une curieuse pratique rhétorique des textes religieux très anciens, archaïques. Ils sont étrangers à nos modes de fabrication littéraire, bien sûr. Et aussi, il y a un rapport totalement différent entre l'implicite et l'explicite que dans des textes qui sont écrits aujourd'hui. C'est une chose étrange et je pense que dans une certaine mesure, il y a peut-être une volonté de laisser certaines notions non mentionnées, non dites. Car tout de même, le texte de l'Ahunavayaya, le premier texte prononcé par Ahura Mazda créant le monde, son deuxième mot, le troisième plutôt. Sur les 21 mots de l'Ahunavayaya, le troisième est au nominatif singulier Vairio, ce qu'il faut choisir. Bon. L'idée de choix est présente dans le texte de l'Ahunavayaya et pour nous, nous avons quelques difficultés. Le philologue moderne qui se penche sur l'Ahunavayaya a quelques difficultés à comprendre exactement à quoi se rapporte cet adjectif. C'est l'ironie de l'histoire. Mais pour le commentateur de l'Ahunavayaya, ça ne fait aucun doute. C'est Ahura Mazda qu'il faut comprendre comme devant faire l'objet d'un choix. Il doit être choisi en tant que Ahura en tant que maître. C'est comme cela que le commentateur comprend. Ce n'est pas le sens du texte, mais c'est la compréhension du commentateur. C'est celle qui nous importe ici. Donc, la notion de choix est présente dans la Unavairya. Et des 21 mots de la Unavairya, c'est le seul mot qui n'est pas, au bout du compte, commenté. Tous les autres mots l'ont été, mais pas celui-là. Pas un seul instant. Dans ces trois chapitres de commentaires, le mot qui fait référence au choix n'est commenté. Et de la même manière, n'est-ce pas, Zarathoustra non plus, on ne nous dit pas en quoi il pouvait bien consister à l'aube des temps, avant que les premiers éléments du monde matériel ne soient taillés par le menuisier Ahura Mazda. Donc il y a ici un silence qui est assez étonnant, mais nous savons aujourd'hui, grâce à notre premier récit cosmogonique, que les Fravashi étaient dans le monde immatériel et qu'elles ont contribué à la mise en place du monde matériel immobile en l'an 3000 du monde. Donc, la logique veut, bien sûr, que ce soit la Fravashi de Zarathoustra qui soit l'interlocuteur d'Ahura Mazda dans la récitation cosmogonique de l'Avesta ancien. En fait, la Fravashi, c'est la forme permanente de l'homme, puisque nous savons que cette âme est immortelle, elle est préexistante et immortelle. Elle nous apprend ainsi, si vous voulez, que la première forme humaine, la première forme sur laquelle l'homme s'est manifesté, c'est sous la forme d'un pur choix sacrificiel. L'homme était un choix sacrificiel errant dans la cosmogonie. Bien, alors, je voudrais faire remarquer deux petites choses qui sont distinctes. Alors, je préfère c'est cette idée de choix, n'est-ce pas, curieusement, figure dans les préambules de tous les textes sacrificiels que nous possédons, de tous les textes sacrificiels que nous... Les Gata, la première strophe des Gata, c'est la Unavairya, Vairyo. Le Yasna Haptankaiti, commence chapitre 35, mais avec la deuxième strophe. La première est un préliminaire en avestique récent. Dans la troisième strophe, Varmaïdi. Nous choisissons. Et puis vient le texte que nous définissons maintenant comme moyenne avestique. C'est le Fravarané. La trois expressions du choix en préambule du sacrifice dans des textes d'époque très différentes. Et le texte moyen avestique, le Fravarané, c'est lui, c'est pas, qui sera introduit en préambule du grand sacrifice avestique récent du Yasna, figurera immédiatement après le pressurage de Hauma dans le 12e chapitre, du Yasna. Donc, l'importance, l'acte de choix est toujours initial. Dans tous les rituels, je vais dire, de toutes les époques, hein, il l'est dans les Gathas, dans l'Yasna Haptankaiti, dans le texte moyen avestique, et via ce texte moyen avestique à l'intérieur du Yasna, qui constitue une part importante de l'Avesta récent. Alors, on verra qu'à chaque trimillénaire, de l'histoire du monde, jusqu'en l'an 12000, qui marque la fin des temps, ben, une âme est propre à chaque événement de cette histoire. Ben, l'intervention des Fravashi, elle est primordiale ici, en l'an 3000, quand se met en place le monde matériel immobile. C'est grâce à elle que le monde est tenu et étendu, hein, vie d'art, comme nous avons vu. Elles interviennent encore en l'an 6000 hein, pour contrer par leur sacrifice primordial, l'assaut de l'esprit mauvais. Hein. Les Gathas, en l'an 6000, elles interviennent ici. Donc, elles sont actives durant... Elles soutiennent le monde et elles contrent l'attaque du mauvais esprit. Mais en l'an 6000, avec le développement de l'humanité, alors que les processus de reproduction étaient réglés, mais tenus immobiles, naturellement, avec la mise en marche du monde, le texte dans la cosmogonie du H13 ne fait pas allusion à ces aspects des choses, se focalise sur les eaux et les plantes, hein, mais ici apparaît autre chose, avec la personne humaine matérielle et dynamique, hein, c'est-à-dire soumise à la vieillesse, au vieillissement, apparaît l'urvan, l'âme intérieure, et la daina, c'est l'apport de Zarathoustra en l'an 9000 du monde. Ainsi, à chaque grand tournant de cette histoire, l'an 3000, l'an 6000, l'an 9000 du monde, correspond une âme particulière. Une âme particulière. Bien sûr, cette cosmogonie a pour but de rendre compte de l'état des choses aujourd'hui. Dès lors, il faut bien que ces âmes soient incarnées, puisque nous ne sommes pas faits que de penser, sinon nous vivrions dans un univers où il n'y aurait que des dieux. Hein. Mais il faut nécessairement que certaines choses immatérielles passent à un moment ou l'autre à l'état matériel. Savons que pour ce qui concerne l'homme, l'être humain, il y a quelques sons mentionné ce texte, le Bundahishn, ce fameux passage du Bundahishn qui présente l'incarnation de l'homme, l'entrée de l'homme dans le monde matériel comme le fait d'une décision. Hein, Ahura Mazda disant au Fravashi, demandant au Fravashi, les termes exacts sont « qu'est-ce qui vous paraît le plus avantageux ?» hein, qu'est-ce qui vous paraît le plus avantageux ? C'est rester ce que vous êtes, c'est-à-dire hors d'atteinte, puisque vous êtes immatériel, hors d'atteinte de la mort, hors d'atteinte des forces du mal, ou souhaitez-vous vous incarner, descendre sur terre, hein, et bien sûr, combattre de manière beaucoup plus décisive les forces du mal, étant bien entendu que moi, Ahura Mazda, je m'engage à, après le cycle, à vous restituer dans votre état premier. Et les Fravashis ne disent pas qu'ils choisissent, hein, ce n'est pas un texte qui parle d'un choix, mais les Fravashis trouvent plus avantageux, elles sont d'accord, hein, elles sont d'accord pour descendre dans le monde matériel. Nous savons, car il y a je ne sais pas combien d'années, nous avons consacré une série de conférences à l'examen du Homestorm. Nous avons vu que les choses se sont en réalité, selon l'Avesta, ce n'est pas la version de l'Avesta, ce n'est pas une décision des Fravashis qui explique l'incarnation de l'homme. Hein, il faut voir l'apparition de l'homme sur Terre selon la cosmogonie avestique, hein, est un produit, produit d'un certain nombre de faits, hein, le premier étant bien sûr l'assaut de l'esprit mauvais. Avec l'assaut de l'esprit mauvais contre le monde matériel, les générations divines elles-mêmes vont se faire imparfaites. Et il va naître d'Ahura Mazda et de sa fille la Terre, la déesse matérielle par excellence, bien sûr, hein, de la Terre, un avorton, hein, qui ne subsistera pas, qui mourra. Hein, et après une série de perspectives dont on ne sait pas très bien si elles sont anciennes, héritées, si elles ne le sont pas, mais après un certain nombre de perspectives, pendant deux ou trois générations de dieux mortels, de dieux imparfaits, de dieux mortels, selon le Homestorm, les choses prennent une autre allure, hein, car ceux qui représentent cette génération-là pressurent le soma, et de ce pressurage de Hauma sont issus les hommes, c'est-à-dire que l'on peut comprendre que les hommes ne sont pas engendrés par cette génération de dieux imparfaits, mais qu'ils apparaissent sur l'ère sacrificielle lors du pressurage du soma. Ce qui signifie que le lien généalogique avec les dieux est rompu. Ils sont des fils du sacrifice, des fils du pressurage. Et cela circonscrit naturellement leur rapport avec les dieux. Ils doivent sacrifier, ils doivent sacrifier. Ils sont issus du sacrifice et doivent rendre le sacrifice, ce qui est une autre manière de dire les choses que ce récit de Zarathoustra faisant par le Yenkehatam, la promesse du sacrifice aux divinités. C'est donc la version avestique, très indo-iranienne, celle-là, n'est-ce pas, de l'incarnation. Vous savez que les choses sont très compliquées, encore dans la suite, puisque aux dieux mortels vont succéder par cette opération des hommes immortels, puisque le premier d'entre eux, Yima, assurera l'immortalité des êtres vivants pendant un millénaire. Donc il faudra encore du temps pour que l'humanité se constitue comme elle l'est, c'est-à-dire mortelle. Au début, Yima a pour un temps figer les choses dans l'immortalité. Mais c'est une autre question. Alors voilà, je crois que, vous voyez ce qui était requis. Je me suis souvent demandé, je prie de bien faire attention à ceci, un peu d'épistémologie facile, si vous voulez. Je vous prie de bien vouloir envisager le fait que je pratique une science étonnamment retardée. Il y a 20 ans encore, n'est-ce pas, on se demandait si l'Avesta parlait ou non d'une doctrine des temps finis. Si cette résurrection des morts, si ce découpage de l'histoire humaine en zones de 3000 ans, si l'Avesta le possédait. C'était un grand sujet de polémique dans les années 80 entre Madame Mary Boyce et Philippe Gignoux, n'est-ce pas ? Philippe Gignoux croyait qu'il y avait sur cette doctrine une influence des apocalypses juives et chrétiennes, tandis que Madame Mary Boyce, qui avait sa tendance à tout faire remonter à Zarathoustra, ne voyait pas, bien sûr, les témoignages de cette doctrine dans l'Avesta, mais disait non, il faut attribuer ça au prophète fondateur lui-même. C'est quelque chose qui fait dès le départ partie de sa doctrine, enfin l'intuition, si vous voulez. Voilà où nous en étions dans les années 80. Alors, je me suis souvent posé la question, mais enfin, ces textes, ils sont là, ils nous parlent, ils racontent ces choses. Pourquoi n'a-t-on pas voulu les entendre, en quelque sorte ? Il y a une part, de cécité que je ne m'explique pas bien. Elle m'est propre aussi, bien sûr. Je ne fais pas seulement le reproche à mes collègues, je le fais à moi-même. Il m'a fallu attendre l'année 2001 et le deuxième récit cosmogonique, l'analyse du deuxième récit cosmogonique du IH-13 pour découvrir le petit bout de laine, n'est-ce pas, qui va permettre de détricoter le système. Mais tout de même, ne pas voir que le IH-9, mentionnait les 1000 ans de Yima, les 1000 ans d'immortalité de Yima, donc un élément d'analyse en millénaire. Ne pas voir que la fin du IH-19 racontait de manière extrêmement explicite la résurrection des corps. C'était quand même deux éléments visibles. Assez étonnamment, Madame Hinze a attiré l'attention par son édition du IH-19 sur ce récit de la résurrection, ça c'est très clair, et au même moment, une étudiante italienne, Sara Circassia, je ne crois pas qu'elle a continué à travailler dans le domaine philologique depuis lors, a fait une édition qui n'a pas paru d'ailleurs du IH-9, et bon, son patron Antonio Panaino a été très surpris de se voir rappeler que le texte mentionnait le millénaire de l'immortalité de Yima. Vous voyez, il y a une part de cécité, et d'autre part, il y a aussi une part d'un autre type de cécité, celui qui fait que l'on ne veut pas voir ce que le texte raconte exactement. Je pense, en 2001, il m'est apparu que le deuxième récit cosmogonique du IH-13 racontait la version avestique de l'assaut de l'esprit mauvais contre la création matérielle. Je n'avais pas vu que le premier récit cosmogonique faisait allusion à la mise en place du monde matériel immobile. Je ne l'ai vu que plus tard. Et en réalité, mon attention a été attirée sur ce fait-là à cause de l'analyse l'an dernier des commentaires du Yasna 19 à 21, où j'avais retrouvé un témoignage sur la création du monde immatériel. C'est simplement, les lacunes se sont peu à peu estompées et ont été remplies par un récit explicite de l'histoire du monde. Donc, ce sont des choses qui généralement se conditionnent mutuellement les unes après les autres. Alors, cela vous expliquera pourquoi j'ai décidé de parler des Fravashi cette année, après avoir fait aveu d'ignorance et d'incompréhension pendant très longtemps. C'est parce qu'il est possible de définir l'action des Fravashi tout au long de cette ligne du temps des 12 millénaires du monde avestique. On voit quelle est leur action graduelle durant toute cette époque, et aussi je crois que nous tenons la raison d'être de leur pourquoi les ancêtres ont, le culte des ancêtres a disparu. Les Fravachis ont évidemment submergé le culte des ancêtres, les ont intégrés. N'est-ce pas ? Ce sont les âmes des morts aussi, aussi. Mais ce sont des âmes qui ont la particularité d'exister depuis toujours. Dès lors, le culte des ancêtres devait se confondre avec leur culte. Elles ne sont pas que les ancêtres, mais elles sont aussi les ancêtres, par la force des choses. C'est une situation qui, finalement, est relativement naturelle. Je voudrais attirer votre attention, et nous terminerons sur cette notation-là, sur l'étrange mythologie d'un texte avestique. C'est aussi une discussion très serrée entre spécialistes. Peut-être l'avez-vous, cette polémique a-t-elle aussi un peu surgi lors des conférences de De Jong, que vous l'avez pu le noter peut-être. L'Avesta, pour certains spécialistes, ne fait pas de mythologie. Qu'est-ce que c'est, alors, ce texte que je vous ai lu aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? L'Avesta ne ferait pas de mythologie, non, mais il a une mythologie très particulière. Vous voyez que ce qui prend le dessus dans la terminologie, c'est le terme issu de la spéculation théologique. Fravachi est un mot de théologien. C'est un mot de théologien savant, de gens qui spéculent. Donc, l'homme a d'abord été un choix sacrificiel. Telle est la doctrine qu'ils élaborent. L'homme a d'abord été un choix sacrificiel. Sa part immatérielle, sa part de pensée, son âme, était un pur choix sacrificiel. Alors, l'âme permanente, l'âme qui fait le choix du sacrifice et qui forme une ligne discontinue jusqu'à la fin des temps dans laquelle nous allons nous insérer, on va lui garder ce nom du choix sacrificiel, Fravachi. Fravachi, Wahlentscheidung, comme disait Lommel, le premier qui a vu cette signification. Mais alors, n'est-ce pas, la spéculation ayant produit sa terminologie, ayant produit ces schémas, on va remythologiser le monde et on va raconter des petites histoires au sujet des Fravachi. Elles émaillent aussi le texte, car nous avons le sens général de la fonction des Fravachi. Nous le tenons grâce au récit cosmogonique. Le travail est fait, si vous voulez. Mais il y a d'autres détails dans leur fonction, dans leur rôle dans le panthéon mazdéen. Il faudra rendre compte de l'aspect guerrier. Il faudra rendre compte du service des eaux. Il y a d'autres aspects qui ne sont pas nécessairement liés à leur nature cosmogonique. Ça, ce sera notre travail dans 3 semaines. Alors, je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.